Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je crois à la rémission des péchés. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. Vous vous doutez, Guillaume, de quoi nous allons parler aujourd'hui après ces citations, c'est évidemment du pardon. Le pardon, ça peut peut-être paraître simple, mais ça ne l'est pas autant que ça. Et de toute façon, je crois qu'il faut un liminaire, souligner, dire que le pardon est peut-être la marque essentielle du christianisme. C'est évidemment donc le Christ qui, on voit dans l'Évangile, qui va souvent pardonner les péchés et qui peut même demander qu'on les pardonne jusqu'à 70 fois, 7 fois, mais c'est dans Matthieu 18, 21, 22, et bien entendu, ça voulait dire que c'était pas un nombre bien précis, mais que c'était tout le temps qu'il fallait pardonner. Alors, avec le pardon, bien sûr, on comprend que la faute est pardonnée, qu'elle n'existe plus, qu'elle était annulée, que c'est une grâce que Dieu va nous accorder, qui dit grâce dit donc un don gratuit, mais vous, définissez mieux le pardon, c'est quoi pour vous?
C'est vrai que le pardon, c'est quelque chose de fondamental, d'essentiel et de tout à fait caractéristique à la foi chrétienne, et je dirais même de la relation à Dieu. Et en deux mots, j'ai envie de dire que dans une relation dans laquelle on ne s'est pas pardonné, alors la relation n'est pas profonde.
Il manque quelque chose.
Il manque quelque chose. C'est presque un privilège de s'être blessé et de s'être demandé pardon, parce que je trouve que, vous savez, c'est un peu comme du bois qu'on va coller. Quand il est collé avec de la colle à bois, il tient mieux après. Et ben, le pardon, c'est pareil.
Oui. Et c'est la colle à bois, le pardon. Ouais, ouais, après, ouais, c'est beaucoup plus résistant. Ouais, ouais. Oui. Voilà. Bon, enfin, quand même, on ne va pas provoquer des situations où on aura besoin de se pardonner pour que ce soit mieux après.
Non, mais ça peut aussi montrer une des raisons pour lesquelles Dieu a fait la vie comme ça, en disant, bon, ben, il faut qu'ils apprennent à se pardonner, et comme ça, ils profiteront en quelque sorte mieux de la vie, ils en tireront la quintessence. Alors, vous avez posé une question, qu'est-ce que c'est que le pardon? Voilà une réponse un petit peu administrative ou étymologique ou un peu conceptuelle. Le pardon, c'est l'acte juridique qui déclare que la faute n'est plus imputée.
Elle n'a plus eu lieu.
Voilà, c'est-à-dire que je ne suis plus, si quand je suis pardonné, je ne suis plus coupable. Et donc, pardonner quelqu'un, c'est lui donner ce qu'il faut pour qu'il ne soit plus coupable. Et donc, c'est un acte administratif, c'est un acte juridique. Alors que souvent, les gens confondent le pardon avec l'attitude intérieure de gêne, de ne pas oublier, de 36 choses qui fait qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas pardonné. Alors que pardonner, c'est transmettre un acte juridique.
Oui, c'est certainement, mais il y a deux choses qui viennent à l'esprit quand vous dites ça. C'est que d'une part, il faut qu'il y ait un être suprême qui prenne la décision, cet acte juridique. C'est Dieu.
C'est Dieu.
Oui. Et d'autre part, peut-être qu'effectivement, ce n'est pas toujours aussi facile. Je crois qu'on pourra en parler un peu plus tard, parce qu'effectivement, comme vous dites, il peut y avoir une certaine gêne. Ça ne se passe peut-être pas toujours aussi bien que ça, mais je suppose que ça vient quand même de la condition humaine. Alors, pour être pardonné, il faut mettre quand même des conditions. L'homme va commettre une faute, et puis Dieu ne va pas peut-être pardonner aussi simplement comme ça. Il y a quand même peut-être quelque chose de la part du pécheur, du fauteur de troubles, il doit quand même faire quelque chose. Il y a une nécessité pour obtenir un pardon.
On va se placer dans des situations bien cadrées, bien délimitées, pour que ce soit assez compréhensible. Donc, on va parler du pardon que Dieu accorde à quelqu'un.
Oui, d'accord.
Hein, voilà, comme ça les choses sont bien précisées.
On verra après quand même du pardon
voilà, à l'autre. Entre les gens. Donc, quand j'ai offensé Dieu pour une raison ou pour une autre, et prenons l'exemple du fait que, par exemple, je ne me respecte pas parce que je me saoule. Et donc, en me saoulant, je fais du mal à mon corps, je fais du mal à mon être entier, je me rends indisponible pour des choses que je devrais faire, etc., etc., etc. Et donc, parce que je ne me respecte pas, alors j'offense Dieu qui m'a appelé à ce que je me respecte. Et c'est pas que Dieu soit mon mentor, mais il est quand même mon père, mon créateur. Et donc, je l'offense puisque dans un sens, je ne tiens pas compte de son avis ou de sa présence, ou etc. Donc, vous avez dit quelles sont les conditions nécessaires pour le pardon. Je crois que la première condition, c'est que moi, je prenne conscience de l'offense. Et cette première condition, avoir la conscience de l'offense, c'est quelque chose dont l'Esprit de Dieu se charge en nous. C'est une des fonctions magistrales de l'Esprit de Dieu que de nous faire comprendre dans notre conscience ce qui est mal. Alors nous, notre problème, c'est qu'on peut se protéger de l'Esprit de Dieu. De la même manière qu'ici, on a trois grandes fenêtres d'un mètre carré, chacune qui sont plein sud, et donc elles laissent entrer la lumière. Mais si on ferme les volets, il fera tout noir et on ne se verra pas.
Même s'il y a du soleil dehors.
Même s'il y a du soleil dehors. Et donc, dans ma conscience, c'est un peu pareil. Si je veux laisser entrer la lumière, alors j'y vois. Si je ne veux pas, eh bien j'y vois pas.
Alors c'est une prise de conscience, effectivement, donc de l'offense. Mais est-ce que, je comprends très bien le rôle de l'esprit, mais est-ce qu'on peut très bien prendre conscience, mais ne vouloir ou ne pas savoir faire quelque chose après cette prise de conscience, et rester donc dans la même situation.
La prise de conscience du mal et du bien qui correspond ne m'amène pas à quelque chose de difficile, parce que si j'ai conscience que c'est mal, alors la seule chose que Dieu me demande concernant le pardon, c'est d'affirmer en moi-même que c'est mal. D'être d'accord.
Oui, c'est
si
ça.
Si je sais que c'est mal, alors je le considère comme mal, et puisque j'en ai eu conscience, alors c'est pas difficile de dire oui.
C'est difficile de s'arrêter de boire.
Alors, ça c'est autre chose, de s'arrêter. Mais je veux dire que le comportement étant consécutif à un ensemble d'habitudes, et l'habitude étant consécutive à un ensemble d'actes, moi, il faut simplement que j'agisse une fois. Et puis, quand je réagis 250 fois, j'aurai pris l'habitude. Mais pardonner, c'est agir une fois. C'est-à-dire que quand j'ai mal fait, alors je dis effectivement j'ai mal fait, et je vais dire à Dieu, bah, écoute, aide-moi à mieux comprendre ce que c'est que de bien faire. Et donc, la première partie du pardon, c'est la conscience de péché, c'est le fait d'être d'accord avec Dieu. Et en grec du Nouveau Testament, c'est remarquable ou intéressant, c'est à remarquer, de voir que confesser se dit homologeo. C'est comme si la confession, c'était d'être d'accord avec Dieu.
Et on reconnaît son état peut-être de pécheur. Disons.
Voilà, on reconnaît qu'on a mal pensé, oui. Qu'on a mal fait, qu'on a mal entretenu les choses, qu'on a entretenu la mauvaise chose, etc. Donc, la confession qui est la première partie du pardon, c'est le fait d'être d'accord avec Dieu, et l'Esprit de Dieu le produit en nous, et après, c'est pas compliqué d'être d'accord. Mais par contre, ce qui manque assez souvent, c'est la conscience de l'efficacité de cet accord. C'est-à-dire que nous, on demande pardon, mais on ne se satisfait pas, ou on n'envisage pas l'importance de la confession. Confesser, c'est être d'accord avec Dieu, c'est commencer à revoir les choses d'une manière différente. Si par exemple je bois, pour reprendre cet exemple qui est un peu général et qui oui. Comme ça, on pourrait dire ne gêne personne parce qu'il critique personne directement, Si je demande pardon de boire, mais je sais que j'y attache toujours la même valeur et que la prochaine fois je recommencerai, à ce compte-là, je ne peux pas dire que je confesse vraiment. Parce que confesser, c'est de dire, d'être d'accord avec Dieu pour dire que quelque part dans ma manière d'envisager les boissons, je ne comprends pas bien les choses. Et si vraiment je suis d'accord avec Dieu, alors il ne m'est pas nécessaire de comprendre les choses en absolu, il m'est nécessaire de savoir que je ne comprends pas bien les choses. Et si je suis d'accord pour dire que je ne les comprends pas bien, alors forcément la prochaine fois, j'aurai un peu moins envie de boire. Ça, c'est oui, un mécanisme très simple.
C'est progressif, disons.
C'est progressif. La confession, elle a une puissance en moi de progrès. Et plus je suis convaincu que la confession a une puissance en moi de progrès, et plus je progresse. Et donc, je trace avec ma main une ligne de progrès qui est avec une pente qui est ce qu'elle est. Mais dans cette ligne de progrès, je peux très bien avoir la libération, la chute, la libération, la chute. Mais plus je vais vers l'avant, et moins ma chute est profonde, et plus je vais dans un progrès.
Oui.
Ce qui fait que l'important, ce n'est pas la chute. L'important, c'est la confession.
C'est la confession.
L'important, c'est la vérité en moi. Reconnaître. Et quelque part, être d'accord avec Dieu.
Et être d'accord avec Dieu. Oui, parce que en fait... c'est pas la faute, peut-être évidemment, du public, disons, de la communauté humaine, mais quand on dit Dieu pardonne, c'est un acte juridique, on a l'impression que c'est presque un coup de baguette magique.
Oui.
Je reconnais que je bois, bon, Dieu me pardonne, et c'est fini, ainsi de suite. Or là, vous voulez très bien expliquer la situation très humaine, et effectivement, ça ne va pas se faire comme ça aussi vite et aussi bien, malheureusement. Peut-être que parfois, Dieu aide beaucoup, que l'Esprit est à l'œuvre et qu'il pardonne d'un seul coup et que le pécheur se retrouve blanc comme neige. Hein. Mais là, la plupart des cas, je crois, et compte tenu de certains âges que je peux avoir, je sais très bien dans la vie que ce n'est pas toujours comme ça. Hein. S'il y a ce chemin progressif et malaisé à faire, peut-être... après cette confession de péché.
Et je pense bien que Dieu n'est pas le Dieu de la baguette magique, que Dieu est le Dieu des choses normales, et où on devrait être à l'aise d'être anormal avec cette conviction que dans cette anormalité, Dieu nous amènera, d'une manière qu'on ne suppose pas, à une normalité, avec des actes qu'on ne connaît pas à l'avance, mais qui nous permettent vraiment aujourd'hui d'envisager notre progrès comme quelque chose de possible.
Donc Dieu nous pardonne, nous en sommes certains, mais il y a quand même, disons, quelque chose à faire, c'est de se confesser. Et puis de savoir que ça ne va pas se passer aussi vite, aussi facilement, et on reprend le même exemple que tout à l'heure, c'est le problème de la boisson, je peux très bien ne pas pouvoir m'arrêter tout de suite. Mais Dieu va pouvoir m'aider, évidemment, progressivement, à me débarrasser de cette mauvaise habitude. Mais il y a quand même eu la confession, et puis il faut que je sache et que je veuille et que je comprenne qu'il y ait une foi en Dieu, une confiance que je vais lui témoigner en me disant, bon, il va m'aider et petit à petit, je pourrai me débarrasser de ce fardeau. Donc il y a foi et oui, la foi est nécessaire.
Et la foi, elle est... c'est quelque chose d'extrêmement simple. La foi, c'est quelque chose qui touche à la relation à Dieu. Et c'est aussi extrêmement compliqué, parce qu'on peut être en relation à Dieu, mais ne pas le croire. Parce qu'on peut le croire sur 70% des choses, mais pas sur 30%. On peut le croire, par exemple, sur le fait qu'il nous aime, qu'il a rendu justice, qu'il nous a montré qu'il nous aimait en Jésus-Christ, qu'il viendra nous chercher, mais ne pas croire qu'il puisse nous changer sur le fait qu'on est alcoolique.
Oui.
Donc, la foi dans la confession, elle touche à la qualité de notre relation à Dieu. Et je dirais que par exemple, nous avons à être intellectuellement ouverts à Dieu et malléables pour comprendre en quoi est-ce que nous faisons mal étant alcooliques. Et si cette réalité-là est vraiment présente quand, à l'occasion de la confession, si on a vraiment foi en Dieu, alors logiquement, on est sur une pente de progrès.
Oui, bien sûr. Et c'est ce qui nous empêche évidemment de croire à 100% Dieu, c'est quand même être le démon qui nous retient et qui va permettre peut-être qu'on n'arrive pas à comprendre que Dieu va nous aider et nous aider à nous arrêter de boire.
À mon sens, non. C'est-à-dire que le démon, globalement, alors c'est peut-être un peu choquant, mais je crois qu'on en a parlé dans d'autres
Oui.
enregistrements, il est au service de Dieu. C'est-à-dire qu'il est, il est adversaire de Dieu, mais il ne peut rien faire que Dieu ne lui permette. Et donc, le démon est au service de Dieu, c'est-à-dire que quand moi, je fais quelque chose dans lequel j'ai besoin du démon, alors Dieu me le fournit. Ce qui n'est pas bon pour moi.
Oui.
Mais c'est et donc c'est toujours moi, c'est toujours l'humain qui
C'est notre
quelque part, oui,
responsabilité.
décide de mal faire et se laisse embringuer. Il est aveuglé, de plus en plus aveuglé, ou aveuglé par historiquement par ses parents ou par le milieu dans lequel il évolue.
Oui, mais il y a aussi peut-être une idée de baptême. Souvent, c'est lié avec le pardon. Aller par le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira en la foi et sera baptisé sera sauvé. Donc, il y a la notion de baptême qui apparaît là. Alors, au niveau du pardon, comment expliquer cette intervention? C'est Marc, hein, qui dit ça.
Le baptême, c'est le, on pourrait dire le sacrement, c'est-à-dire la mise en œuvre d'un geste dans le domaine du visible qui correspond à l'invisible. C'est ça la définition du
Du
sacrement.
sacrement, oui.
Et donc, dans le baptême, il y a un acte visible qui est de mettre quelqu'un sous de l'eau, que ce soit de manière symbolique, avec quelques gouttes ou dans l'immersion, et l'eau étant un signe de mort. Et donc, quand on est sous l'eau, alors on s'applique la mort, et quand on sort de l'eau, alors on vit la
On revient à la
résurrection.
vie.
Et donc, le baptême est un signe de mort et de résurrection, la mort et la résurrection étant le moyen par lequel Dieu nous a pardonnés. C'est pour ça qu'il y a un lien entre le baptême et le pardon.
Oui, parce qu'on est sauvé que parce qu'il y a eu la mort et la résurrection de Jésus.
C'est ça.
Oui, voilà. Donc voilà, c'est lié,
Voilà le
disons,
lien.
à ce signe qui est le sacrement du baptême. Alors, disons, est-ce que ce pardon est accordé à tous les hommes? Est-ce qu'il est universel? Alors, aux chrétiens, ça se comprend. Mais on sait et on connaît bien des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Il y a ceux qui ont entendu la bonne nouvelle et ceux qui ne l'ont pas entendue. Il y a ceux qui l'ont entendue mais qui n'ont pas voulu lui donner foi, où ça se figurait. Il y a ceux qui donc vraiment qui la refusent, oui. Et puis il y a les morts avant Jésus-Christ. Puis il y a les vivants d'aujourd'hui et puis il y a les vivants de demain. Alors ce pardon est accordé à qui? À tout le monde?
Il y a un passage qui est assez explicite et un peu peut-être étonnant dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 3, où dans la section, le paragraphe du verset 20 au verset 30, Jésus dit, je cite, au verset 29, quiconque proférera des paroles injurieuses contre l'Esprit Saint n'aura jamais de pardon. Et
Oui.
donc, comment faut-il comprendre cela? Ça va un peu dans le sens de ce que vous demandez.
Oui.
À qui s'adresse le pardon?
Bien
Et
sûr.
voilà. Et dans ce passage, qu'est-ce que fait Jésus? Il est dans la région dans laquelle il est né, hein, près de Capernaum, à la maison de Pierre, au verset 20. Et il guérit, il délivre des démons. Et alors, il y a des gens qui viennent le voir, les scribes qui étaient venus de Jérusalem, donc un peu les chefs religieux, et qui disaient, il chasse les démons par le chef des démons. Et alors Jésus dit, mais si c'est vraiment le cas, alors la maison est divisée, elle ne pourra pas subsister. Et il est en train de leur dire, vous discernez mal l'origine de ma puissance. L'origine de ma puissance n'est pas le démon, mais c'est plutôt l'amour, la grâce de Dieu. Et c'est pour ça qu'il leur dit, quiconque proférera des paroles injurieuses contre l'Esprit Saint, ou autrement dit, quiconque ne discernera pas que ces choses-là viennent de l'Esprit Saint, n'aura pas de pardon. Si je le disais autrement, je dirais, quiconque refusera le pardon, refusera la délivrance, refusera d'être guéri des démons, ne pourra pas être guéri des démons. Quiconque refusera le pardon ne pourra pas être pardonné.
C'est comme si on jette une bouée de sauvetage quand vous êtes à la mer, et si vous ne voulez pas la saisir, vous allez couler.
C'est exactement ça. Et donc, dans ce passage, Jésus propose l'exorcisme, c'est-à-dire le fait de ne plus être démoniaque à ceux qui le sont, mais il dit, mais si vous ne discernez pas que ces choses-là viennent de Dieu, alors vous ne pourrez pas avoir la délivrance qui vient de Dieu. Je réponds maintenant à votre question. Oui. À qui est adressé le pardon ? À tous.
À tous.
Mais tous ne le reçoivent pas parce que tous ne discernent pas que Dieu adresse le pardon à tous. Alors, dans les versets qui en parlent, par exemple, je cite simplement le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17 et au verset 30, où il est dit que Dieu ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se repentent. Repentance. Dans cette première partie du pardon, la confession ou la repentance, ce qui est la même chose, ce sont deux mots différents qu'on va définir, mais Dieu s'adresse à tous les hommes et il leur demande à tous de confesser ce qui ne va pas.
Oui, mais pour reprendre l'exemple simple que je donnais tout à l'heure, si je ne veux pas attraper la bouée, je suis libre de le faire, mais pourquoi ? Je suis fou.
Oui. Oui. Pourquoi est-ce que j'attrape pas la bouée ? Il y a différentes raisons. Peut-être parce que j'ai pas assez mal. Peut-être parce que je suis
trop. J'ai en train de me noyer. Je dois bien m'en rendre compte quand même.
Je crois qu'on est tous, on a tous des exemples personnels qui montrent qu'il y a quelque chose qu'on ne lâche pas. On sait qu'il y a pas des bonnes choses dedans, mais il y en a peut-être pas de suffisamment mauvaises pour qu'on se rende compte qu'elles nous font mal.
Oui. Et alors la question. Bateau, enfin c'est le cas de parler après la bouée, effectivement, Hitler, va-t-il être pardonné ?
Pour l'instant,
je prends l'exemple d'Hitler parce que c'est l'exemple qu'on donne souvent.
Pour l'instant, je dirais que Dieu seul le sait.
Dieu seul le sait.
Et en attendant, puisqu'il est sous cet ordre, ce commandement que Dieu lui a donné de se repentir et de confesser sa faute, alors je pense qu'il a pu le faire. La grande question, c'est étant allé aussi loin dans le mal, dans l'abomination, dans ce qui est indigne, est-ce que, quelque part, on ne s'endurcit pas de plus en plus ? Mais là, on a toujours cette possibilité de venir à la lumière, surtout quand on sait que la mort s'approche et qu'on a une rencontre avec Dieu qui nous attend après.
Oui, tel qu'il était, il a peut-être refusé l'avouer.
Oui.
Bon. Alors, pour en revenir quand même le péché contre l'esprit, moi je vois un rapprochement à faire, c'est que nous sommes notre corps et le temple de l'esprit. Donc, parce que parfois c'est difficile à comprendre. Comment peut-on pécher contre l'esprit ? Alors là, je verrais presque un raccourci. C'est lorsque je pèche presque contre moi-même, contre le temple de l'esprit.
Il faut dire que, de manière assez chronologique dans la Bible, dans les évangiles, l'Esprit de Dieu n'est pas encore venu dans les hommes. La Pentecôte n'a pas eu lieu. Et donc, il y a l'Esprit tape à la porte.
Oui.
Jean 16, verset 9, Jésus dit que l'Esprit Saint va convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Donc, l'Esprit tape à la porte. C'est pour ça que Jésus parle ici de péché contre l'Esprit. Mais après, à la Pentecôte, comme vous le dites, les chrétiens, ceux qui ont justement reconnu leur position devant Dieu de pécheurs, d'avoir besoin de la grâce de Dieu, alors les chrétiens ont l'Esprit en eux, et il n'est plus question de pécher contre l'Esprit, mais d'attrister ou d'éteindre l'Esprit. L'Esprit reste en nous, mais il a finalement une toute petite place dans laquelle, finalement, on ne lui laisse pas faire grand-chose.
Alors donc, Il suffit de se confesser pour se mettre sur le chemin, évidemment, du pardon, mais pratiquement, comment ça se passe? On peut se confesser seul à Dieu ou a-t-on besoin d'un intermédiaire? Dans certaines confessions, il faut s'adresser à un prêtre, mais ce n'est pas partout pareil.
La Bible donne plusieurs indications. Par exemple, du temps des psaumes, dans le psaume 51, David dit par exemple « Tant que je me suis tu, mes os ont dépéri », en montrant que l'absence de confession faisait qu'il en était mal même dans son corps. Et David n'avait pas spécifiquement de confesseur, hein, de ce temps-là, il était dans une relation à Dieu qui était directe, et même quand il se confessait, il écrivait un psaume, et comme ça tout le monde le savait, mais c'était un modèle dans un sens. Hein, voilà. Donc c'est intéressant déjà d'avoir cette approche personnelle, qui montre une qualité, une noblesse intérieure. Dans le psaume 51, il dit « Voici, tu veux la vérité dans l'homme intérieur. » Et donc, c'est ça la base de la confession, c'est ça le fond de commerce de la confession. C'est que Dieu veut que nous soyons habités par la vérité. Dieu veut que nous découvrions la vérité et que là où nous avons cultivé le mensonge, nous disions « Ben non, ça c'est pas vrai. » Et que de ce fait, la vérité qui nous habite, mettons, contribue à la noblesse, à la béatitude de notre personne. Donc la confession est quelque chose qui est toujours personnel et intérieur, mais par exemple, dans le Nouveau Testament, il y a, dans la lettre de Jacques, au chapitre 5, il est dit « Confessez-vous donc vos fautes l'un à l'autre ».
Oui.
Mais cette situation, chapitre 5, se trouve dans un contexte où la personne aura appelé les anciens ou les évêques, hein, les anciens de l'Église. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut toujours se confesser l'un à l'autre? Personnellement, il me semble qu'il y a des circonstances dans lesquelles il est utile de se confesser à l'autre, mais d'un autre côté, que la majorité des circonstances devraient être des lieux où on se confesse directement à Dieu et où nous n'avons pas besoin de l'autre pour nous confesser. Mais peut-être que se confesser à l'autre, c'est plus s'engager. C'est parce qu'on est vrai, on veut être vrai devant Dieu, et on le montre en étant vrai devant quelqu'un d'autre. Donc il y a quelque chose de très généreux, je trouve, dans la confession à l'autre.
Oui, d'autant plus qu'effectivement, quand on est en relation avec Dieu, on peut poser la question et se donner soi-même la réponse.
Oui.
Ne pas entendre exactement Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, oui.
S'il y a un intermédiaire, il va vous remettre un peu sur le chemin.
C'est ça.
Alors d'autant plus quand même que Jésus dit à un moment donné aux apôtres, hein, vous remettrez les fautes à certains, elles seront remises, et ceux à qui vous ne les remettrez pas, ne seront pas remises. Donc là, les apôtres servaient bien d'intermédiaire aussi.
Oui, oui, on a donc nous aussi cette fonction de remettre les péchés. Comment? Eh bien, c'est en expliquant à autrui comment est-ce que ces péchés peuvent être remis. Si quelqu'un dit « moi je porte le poids de ceci et de cela, de ce que j'ai fait dans ma vie », mais si on lui explique que, notamment par la connaissance biblique, on sait que Dieu a pardonné nos péchés en les expiant, alors on donne à la personne l'occasion de s'approprier ce pardon et de comprendre comment est-ce que Dieu a fait pour expier. Et donc on est des personnes qui participons au fait de remettre les péchés.
Oui, c'est ça. Il faut qu'ils s'approprient, effectivement, donc, cette relation, le pécheur, et qui est la face sienne, quoi. Il ne faut pas qu'ils disent, bon, ça y est, je vais raconter à X ou à Y, et c'est fait. C'est à lui, quand même, à personnellement, travailler la patte. Hein. Alors, souvent, Jésus, il guérit les personnes, physiquement, et il leur remet les péchés. Il y a un rapport entre la faiblesse physique et la faiblesse de l'âme, disons, pour ne pas répéter péché.
Oui, à mon sens, il y a un rapport entre la faiblesse physique et la faiblesse de l'âme. Je pense qu'on n'imagine pas à quel point, à chaque fois nous faisons mal, à quel point nous nous faisons du mal, même dans notre corps. Je pense à deux versets du Nouveau Testament, puisque on pourrait dire, oui, mais ça sont des choses de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on peut citer dans Éphésiens 6 un passage qui montre le rapport entre l'obéissance des enfants et le fait qu'ils vivent longtemps sur la terre. On se dit, mais c'est quand même terrible. Je le lis, Éphésiens 6, verset 1, Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse, afin que tu prospères et que tu vives longtemps sur la terre.
Oui.
Donc, il est question de, par l'obéissance aux parents, premièrement, de prospérité, c'est-à-dire de qualité de vie, et deuxièmement, de durabilité, de longueur de
Oui,
vie.
bien
Et
sûr.
donc, voilà comment est-ce que l'obéissance peut déjà amener qualité et longueur de vie. Je pense à un deuxième passage, c'est dans la lettre aux Corinthiens, au chapitre 11, où il est question de l'Eucharistie, de la Sainte Cène. Et donc, on voit en 1 Corinthiens 11 et au verset 27, par exemple, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable à l'égard du corps et du sang du Seigneur, mais que chacun s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, et il parle, versets 29 et 30, de ceux qui le font mal, en ne distinguant pas la personne de Jésus-Christ, et il dit au verset 30, c'est pour cela que plusieurs sont faibles et malades parmi vous, et qu'un assez grand nombre sont morts. Donc le rapport entre ce que je fais mal à l'intérieur et la conséquence dans mon corps. Oui.
Oui, bien sûr. Oui. Alors, vous avez aussi peut-être autre chose à dire, peut-être pour arrêter sur ce point-là, c'est que nous ne sommes pas des pécheurs à qui il arrive d'être saints, mais nous sommes peut-être des saints à qui il arrive d'être pécheurs.
Oui.
Ça signifie quoi exactement?
Alors, je crois qu'il faudrait garder cette expression comme quelque chose de très encourageant qui devrait nous montrer que pécher, entrer dans une situation qui n'est pas normale, ça relève, c'est ponctuel, ça relève de l'occasion. Hein, voilà. Alors, il faudrait qu'on définisse un peu les mots. Un pécheur, c'est quelqu'un qui fait mal. Mais on pêche sans arrêt, on pêche parce qu'on n'aime pas assez bien, parce qu'on est impatient, parce qu'on convoite, parce qu'on mange trop, parce qu'on mange pas assez, parce qu'on parle trop, parce qu'on parle pas assez, parce qu'on écrit mal, etc. Donc, dans l'absolu, pécher, ne pas pécher est impossible tant que nous ne comprendrons pas l'ensemble des choses de manière complète. Mais être saint, je crois que dans notre société, on confond souvent le fait d'être saint avec le fait d'être pur.
Oui.
Être pur, c'est parce qu'on fait tout bien, alors on est pur. Bon, mais être saint, c'est pas ça. Sinon, on n'aurait pas deux mots différents. Être saint, c'est être mis à part, c'est appartenir à Dieu. Et par exemple, 1 Corinthiens 6, 11 nous dit que nous avons été sanctifiés par l'œuvre de Jésus-Christ. C'est-à-dire que maintenant nous appartenons à Dieu par l'œuvre de Jésus-Christ. Dieu a mis son sceau sur nous. Nous lui appartenons. Nous sommes des saints. Alors évidemment, ça va un peu à l'encontre de ce que certaines confessions chrétiennes disent à l'égard de la sainteté, en
Bien sûr,
reconnaissant les uns comme saints et pas les autres.
oui.
Voilà. Personnellement, je pense que tous les enfants de Dieu sont saints. Mais il arrive aux saints de pécher.
Bien sûr.
Et l'enfant de Dieu pèche parce que, d'une part, il n'a pas tout compris, d'autre part, parce que, ayant compris, il ne l'a peut-être pas très très bien compris, et la chute, le péché, est l'occasion pour lui de comprendre qu'il n'a pas, il n'a pas bien compris, tout simplement.
De se relever.
Et puis l'occasion de se relever.
Effectivement, je crois que là, le pardon, on ne peut-être pas depuis qu'on a commencé notre discussion, suffisamment peut-être insister que le pardon est obtenu par le sacrifice sanglant de Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection. C'est à partir de là que nous sommes justifiés et que nous sommes donc pardonnés. C'est
Absolument.
l'essentiel. Et ça, peut-être qu'il faut le dire, le redire et se mettre bien dans la tête, dans le cœur et le faire savoir.
C'est peut-être pas inutile de montrer des étapes du pardon. On a parlé d'une première étape qui est conscience de péché.
Oui.
D'une deuxième étape, qui est la confession.
De le reconnaître. Hein,
où je dis. Et ces deux choses sont aussi appelées repentance.
Oui.
La repentance, en grec du Nouveau Testament, ça se dit métanoïa. Noïa, c'est la compréhension. Et méta, c'est le changement. Hein, la métamorphose, c'est le changement de forme.
Oui.
Et donc la repentance, c'est le changement de compréhension. Je suis saisi par l'Esprit de Dieu pour réaliser que j'ai mal pensé, je change de compréhension, et du coup, je me repens. Mais quand je me repens, je suis appelé, moi, à recevoir le pardon de Dieu. Parce que le changement de compréhension pourrait me laisser dans une horreur de ce que j'ai mal fait, dans une conscience de ce qu'il y a bien, de ce qu'il y a à bien faire, mais dans le non-savoir de l'œuvre de réconciliation que Dieu a faite à mon égard. Dieu m'amène à bien penser, mais Dieu m'amène aussi à comprendre, avec le pardon, qui est un don parfait, le pardon,
oui.
Il m'amène à comprendre que justice a été faite à l'égard de ce que j'ai mal fait. Et donc ça, on pourrait appeler ça la substitution, par exemple. Dieu s'est substitué à moi pour ce qui est de payer ce qu'il faut pour ma faute. Et donc, une fois que je suis passé par la conscience de péché et par la confession, ce qui est la repentance, il faut aussi que je m'approprie le fait que Dieu m'a pardonné, que Dieu a effacé ma faute, que Dieu a fait ce qu'il fallait pour que ma faute ne soit plus imputée. Et on entend, par exemple, à cet effet, ce que dit Paul, l'apôtre Paul, en 2 Corinthiens 5:21, il dit « Celui qui n'a pas péché, Dieu l'a fait pécher, afin que nous devenions justice de Dieu en Christ. » Et donc, c'est un peu compliqué comme verset, comme expression, mais ça veut dire que Jésus qui n'a pas péché a été fait pécher à ma place à cause de mon péché. Et donc, chaque fois que je confesse mon péché, eh bien, je réalise que Dieu a fait pécher Jésus pour rendre justice à l'égard du péché que j'ai commis.
En fait, si Dieu pardonne aux pécheurs, nous sommes, nous, les hommes, dans l'obligation aussi de pardonner à nos frères. Et nous sommes d'ailleurs invités dans l'Évangile, où souvent on nous dit effectivement de pardonner au prochain, et même si on a quelque chose contre son frère, et si on est en chemin pour aller au temple, eh bien, se retourner voir son frère, effectivement, pour essayer d'améliorer cette relation entre nous.
Oui, le pardon est quelque chose de tellement essentiel dans l'œuvre de Dieu que la relation fraternelle est appelée à être nourrie de cela. Le pardon n'est pas une obligation dans le sens où qu'on serait obligé de quelque chose, mais c'est tellement important que finalement c'est quelque chose dans lequel Dieu nous demande d'être vraiment absolument.
Tout à fait, oui. Effectivement, j'ai commencé ma phrase en disant Dieu pardonnant aux pécheurs, on peut faire moins que de pardonner à nos frères.
Voilà. Voilà. Et donc, le pardon entre les hommes est montré comme un commandement de la part de Jésus. Hein. Pierre, dans Matthieu 18, vous en avez parlé tout à l'heure, dit « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère ? Ce sera 7 fois. » Et Jésus lui dit « Non, 70 fois 7 fois. » comme pour lui montrer que c'est un pardon infini qu'il faut qu'il réalise. Bon, mais je crois que là aussi... La Pentecôte n'est pas venue, l'Esprit de Dieu n'est pas descendu dans les hommes. Et quand on écoute les paroles de Paul ou d'autres, Paul dit en Éphésiens 4, verset 32, « Vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu, en Christ, vous a pardonné. » C'est-à-dire faisant ce qu'il faut pour que la relation entre les hommes soit comblée, complète, riche, soit réparée, soit... avec cette grande capacité qu'amène le pardon.
Oui, alors en fait, quand on est appelé, disons, à pardonner nous-mêmes, bien, on participe à l'œuvre de Jésus, à l'œuvre de Dieu.
On fait quelque chose qui découle de l'œuvre de Dieu, oui, tout à fait. On nourrit la relation de quelque chose dans lequel Dieu a commencé, hein, quelque chose que Dieu a initié.
Et mais est-ce qu'on se rend compte que c'est magnifique, ça ?
C'est magnifique.
Je pardonne parce que tu as pardonné, mais je fais ce que, comme Dieu.
Oui.
Hein, vous simplifiez, oui. Bien entendu. Oui. Donc on s'approche de Dieu, on se relie encore plus à lui. Et puis c'est aussi se grandir, peut-être, puisqu'on fait comme Dieu, non ? Je ne plaisante pas.
Hein. Non, mais tout à fait, tout à fait. Mm. Et je pense qu'il faut qu'on accorde au pardon... l'importance qu'il a, mais d'avoir bien conscience que plus je le mets en œuvre, et plus il découle de Dieu en moi. Mmh. Et c'est un peu, je ne sais pas si j'anticipe dans ce que vous vouliez dire, mais c'est un peu le sens du Notre Père. Hein? Pardonne nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire qu'en fait, dans le fait de pardonner à ceux qui nous ont offensés, il y a un robinet qui s'ouvre et qui fait que je me mets en situation de recevoir pour moi-même le pardon de Dieu.
Et en plus, donc, je pense que si on pardonne, évidemment, à un frère, c'est que ce frère nous a fait, entre guillemets, quelque chose. Donc on va être obligé de dominer les mauvais sentiments, de colère, de contrariété, disons, on va cultiver, en fait, disons, un peu notre propre jardin, si vous voulez, on va dégager tout ça pour pouvoir accorder ce pardon et mettre en œuvre la volonté de Dieu.
Et oui.
Donc, ce sentiment, ce ressentiment, cet orgueil vont être exclus de nous-mêmes aussi. Donc, on se fait presque du bien lorsqu'on pardonne.
On se fait du bien quand on pardonne, et de la même manière que l'Esprit de Dieu nous amène à une bonne conscience des choses dans le pardon, je dirais que l'Esprit de Dieu nous amène aussi au fait de bien vivre les émotions, et même les émotions douloureuses. Dans la colère, dans l'orgueil, dans toutes ces émotions dans lesquelles ces émotions qui expriment une relation difficile à l'autre devraient être des indicateurs de la part de Dieu pour bien nous faire comprendre ce que nous avons à comprendre à l'égard de la relation. Par exemple, l'orgueil, c'est l'état émotionnel qui résulte du fait de se croire supérieur.
Voilà, oui.
La colère, c'est l'état émotionnel qui résulte du fait que mon projet est bloqué par quelqu'un ou par quelque chose.
Oui, et donc, on ne peut pas faire ceci.
Si je m'estime supérieur, alors je vais ressentir l'orgueil. Mais si je ne m'estime pas supérieur, je ne ressentirai pas l'orgueil. Si j'estime que mon projet peut être bloqué, alors je ressentirai de la colère. Mais si, dans l'absolu, je fais toujours le projet que Dieu me demande, alors cette colère, elle va se manifester et je ne vais pas la subir. Et voilà comment est-ce que dans le pardon, Dieu nous appelle aussi à réaliser des choses qui sont, somme toute, relativement simples, mais qui restent complexes, hein, dans lesquelles il faut se pencher un petit peu, il faut réfléchir pour que ça puisse être des réalités en nous.
Oui, en fait, je le redis, il me semble que c'est un bienfait pour tout le monde lorsque on pardonne à l'autre.
Oui.
Et quand on ne pardonne pas, il y a quand même des conséquences négatives, je suppose. Hein, bon, à mon avis, d'abord, on commence par ne pas obéir à Dieu. puisqu'il demande qu'on pardonne aux autres, comme lui nous pardonne. Ça va entraîner aussi peut-être de la rancœur, de la vengeance, on revient sur les sentiments, ça peut nous amener aussi à une certaine violence, parce que si on ne pardonne pas, l'autre est contrarié aussi, et donc ça peut être vraiment une escalade. Puis on n'est peut-être pas très heureux, ça alourdit notre propre vie, parce qu'on n'est quand même pas bien, je suppose, hein. Et puis peut-être sur notre salut, qui risque, si on ne pardonne pas, on ne sera pas pardonné aussi. Donc, toutes ces conséquences, comment voyez-vous ça pour les gérer? Je te demande en pardonnant.
Sur notre salut, mettons que pour quelqu'un qui est sauvé, qui est au bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ, on pourrait dire que là, ce qui peut lui arriver de pire, c'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 3, au verset 14, qu'il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est-à-dire que toute son œuvre n'aura pas servi à grand-chose, tout ce qu'il aura fait aura été de mauvaise qualité, sera brûlé. Mais lui sera sauvé.
Oui. Hein, le feu ne détruit que ce qui est mauvais. Alors.
C'est ça.
Et donc, le feu purifie.
C'est ça. Et donc, nous passons de la mort à la vie par le fait de croire que Dieu nous a sauvés, mais après, pour le salut... ce que nous faisons de mal ne remet pas en question le salut, mais il remet en question la qualité de la réussite de notre vie à la fin.
Oui. Hein, voilà. Alors en fait, le feu, on dit qu'il détruit le mal, il purifie aussi, et puis après, on y a toujours la notion de feu, mais le feu de la gloire.
C'est ça.
Parce qu'on arrive à un bon résultat.
Hein. Oui.
Donc le feu peut être compris de différentes manières. Alors après, disons, le pardon, je crois qu'on s'est bien étendu sur le pardon, la réconciliation, comment pourriez-vous, disons, c'est la suite du pardon, c'est obligatoire, c'est toujours possible?
C'est toujours possible.
C'est toujours faisable.
On pourrait peut-être parler à la fois de possibilités et d'obstacles.
Oui.
Alors... Quant aux possibilités, se réconcilier, c'est reposer une relation. Et reposer une relation, c'est recommencer à se parler, c'est accepter d'avoir des souvenirs particuliers, c'est accepter de voir que la relation que nous avons est moins bonne que celle que nous avions avant, mais savoir qu'aussi qu'elle peut se construire, que plus... on s'approchera, on se connaîtra, plus cette relation sera bonne. Mais il y a des obstacles. L'obstacle, c'est par exemple le fait que souvent, quand on n'oublie pas ce qui s'est passé, on a l'impression qu'on n'a pas pardonné. Et ça, c'est un peu dommage, parce que pardonner, ce n'est pas oublier.
Non, ça c'est important, oui.
Hein, pardonner, c'est dire que la chose a été réglée, mais j'oublie pas ce qui m'a été fait ou ce que moi j'ai fait à quelqu'un.
Oui, parce que la blessure subie, souvent, elle reste dans le cœur.
Elle reste. Par contre, la cicatrice peut être complètement refermée, ne pas être douloureuse du tout. Donc, je sais ce qui a été fait, mais par contre, je n'en suis pas du tout... Il n'y a rien qui soit à vif, et si je m'en souviens, je n'en souffre pas.
Mais à la limite, c'est beaucoup plus beau de s'en souvenir.
Oui.
Et d'avoir pardonné.
Oui, absolument. Ouais.
Je suis blessé, je sais que j'ai cette blessure, mais on s'est réconcilié, on oublie, mais bon, c'est encore plus beau, parce que si on avait oublié, on n'aurait presque pas de mérite.
C'est ça. Ah oui.
Bien entendu. Alors, c'est le pardon, ce n'est pas l'oubli. Mais peut-être aussi, il ne faudrait pas confondre aussi, je ne pardonne pas, ce n'est pas la peine, parce que je l'excuse, je parle de quelqu'un qui m'aurait offensé, je l'excuse parce qu'il a des circonstances atténuantes. Est-ce que ce n'est pas un peu grave de ne pas vouloir accorder le pardon et se contenter de cette médiane-là, parce qu'en fait, c'est peut-être irresponsabiliser l'autre. Que si je lui pardonne, il serait bien obligé de réfléchir à ce qu'il a fait. Que je dis, bon, allez, c'est rien, mon petit, passons là-dessus, passons l'éponge. Mais moi, je crois que c'est pas bon.
C'est pas bon. C'est pas bon. C'est vrai qu'on a la responsabilité de pardonner. Pardonner, c'est permettre à la relation de retrouver une réalité juste, hein, puisque le pardon amène la justice, c'est un acte de justice. Et donc, pardonner, c'est dire à l'autre, notre relation à présent est juste. Et donc, si je ne le fais pas, je coupe la relation et j'oblige l'autre à rester dans une relation injuste qui est affreuse.
Ben oui.
Voilà. Donc, dire c'est pas grave, ce n'est pas bien. Hein, c'est péché.
C'est grave.
Voilà, quand c'est grave, c'est grave. Quand c'est pas grave, c'est pas grave. Mais on ne peut pas dire de quelque chose qui n'est pas grave que c'est grave ou de quelque chose qui est grave que ce n'est pas grave. Et donc, l'excuse, vous avez parlé d'excuse à l'instant. C'est pas le pardon, hein.
Non,
je t'excuse, justement. Ça veut dire, voilà, on va faire comme si c'était pas grave. Mais quand c'est grave, et je te pardonne, c'est-à-dire qu'en fait, l'offense est réglée par Dieu. On ne sait peut-être pas forcément comment est-ce que Dieu le fait, mais en tout cas, on affirme qu'elle est réglée. Oui.
Et puis l'autre, il n'a pas conscience de tout ce qu'il a pu faire. Mais il y a aussi autre chose dans le pardon, c'est lorsqu'on veut imposer, disons, ce pardon. En fait, c'est un acte de justice, mais c'est un acte gratuit aussi. Et quand on peut entendre dire « je ne lui pardonnerai que s'il fait le premier pas », il ne peut pas y avoir de condition. On pardonne ou on ne pardonne pas.
C'est ça.
C'est l'orgueil, on veut humilier l'autre, on veut l'irresponsabiliser. Enfin aussi, c'est moi qui vais accorder le pardon. Là, je ne crois pas que Dieu fasse ce genre de commerce, donc il est évident qu'on ne va pas le faire.
On ne peut pas le faire.
Avant de vous laisser conclure, on pourrait prendre un exemple biblique. Effectivement, c'est l'histoire de Joseph et de ses frères dans la Genèse du chapitre 30 à 50. On se souvient que Joseph, c'est un lapsus, mais c'est un peu logique parce qu'on peut faire le parallèle avec tout Joseph et Jésus. Joseph étant le fils préféré de Jacob, il est évident que ça n'a pas plu à ses frères, ils ont commencé à le haïr, ils en sont débarrassés en le vendant à des marchands qui partaient en Égypte. Bon, on ne raconte pas l'histoire de Joseph, une fois arrivé là-bas, eh bien, il arrive jusqu'à être près du pharaon et devenir un personnage effectivement important. Arrive une famine, ses frères sont obligés d'aller en Égypte quémander, effectivement, donc il a eu une grâce d'avoir du blé pour pouvoir manger. Joseph les reconnaît, mais eux, ses frères, ne le reconnaissent pas. Et là, il va y avoir tout un travail que Joseph va installer, ce qui sera un travail de restauration, effectivement. Donc, il y a la patience, il les reçoit, il ne dit rien, effectivement, puis petit à petit, en provoquant plusieurs événements, il arrive évidemment peut-être à tout simplement à faire remonter à la conscience de ses frères ce qu'ils ont commis et qu'ils semblent avoir oublié. Donc là, il va tout avoir un travail de restauration que Joseph met en place.
Oui, ce travail de restauration, c'est peut-être bien le travail de confession dont on a parlé tout à l'heure.
Voilà.
Et dans cette, si on raconte peut-être pour des personnes qui ne sauraient pas exactement ce qui s'est passé, Joseph, qui, comme vous l'avez dit, était le fils préféré de son père, il y avait 12 frères, a été vendu par ses frères à des Ismaélites, qui après l'ont vendu à des Égyptiens. Et donc, quand les frères sont allés en Égypte pour acheter de la nourriture, Joseph était premier ministre, hein, on va dire. Joseph les a reconnus et Joseph les a amenés à se rendre compte de ce qu'ils avaient fait et, sans connaître Joseph, à ce que ses frères puissent confesser qu'ils avaient mal fait. Et Joseph a fait un peu la mise en scène, il ne s'est pas fait connaître tout de suite. Et donc c'est vrai que c'est très touchant de voir comment Joseph a permis à ses frères de confesser ce qu'ils avaient fait et même de se rendre compte que finalement ils en avaient un poids, ils avaient quelque chose de très très personnel et de très fort. Donc je trouve que cet exemple de Joseph et de ses frères est très fort et très important pour nous, pour le pardon. Peut-être que dans notre famille on a des personnes avec qui on a besoin de régler un peu les choses. Des personnes qu'on ne voit plus, des personnes à qui on ne téléphone pas, à qui on n'écrit pas, des personnes qu'on ne veut pas fréquenter, ou bien des personnes qu'on voit, mais pour lesquelles on n'a pas de liberté, non pas parce que ces personnes-là serait désagréable, mais parce que ces personnes-là, on retient quelque chose contre elles, et de ce fait, on n'a pas cette liberté. Et donc, je crois que c'est à nous de juger en nous-mêmes de cette disponibilité que nous avons à l'égard de ces personnes qui nous ont blessés. C'est à nous-mêmes d'être clairs devant Dieu et de se dire véritablement, oui, c'est vrai que je veux être disponible, je veux réaliser le pardon et m'ouvrir à ces personnes pour que éventuellement une réconciliation soit possible. Mais avant de pouvoir être disponible à l'égard de ces personnes, il me semble que comme Joseph, il faut qu'on fasse un peu un retour sur nous-mêmes. Joseph, c'était un peu le chouchou, hein, vous en avez un peu parlé, et
oui,
il avait la plus belle robe, il était...
Il espionnait un peu ses frères.
Il espionnait ses frères, etc. Voilà. Hein. Et donc, je pense qu'il a fait un retour à lui-même, et peut-être qu'il a appris à se pardonner lui-même. C'est-à-dire que, pour pardonner aux autres, je pense qu'il faut aussi faire du retour sur soi, il faut réaliser à quel point nous aussi, nous sommes des objets de grâce, nous sommes graciés, et nous avons à ne pas être trop exigeant à l'égard des autres parce que nous ne sommes pas trop exigeants à notre égard. Mais alors, si on va encore un tout petit peu plus loin, on se rend compte que donc on ne peut pas tellement pardonner aux autres si on ne se pardonne pas à nous-mêmes, mais on ne peut pas se pardonner à nous-mêmes si on ne reçoit pas directement le pardon de la part de Dieu.
Oui, bien sûr.
Et donc, il faut revenir à ce face-à-face avec Dieu, revenir à une pleine conscience, un vrai regard sur nous, et en nous disant, sans édulcorer les choses, sans les arranger à notre sauce, que oui, on a toutes les raisons, finalement, d'être condamnés, mais nous ne le sommes pas, de montrer qu'on a, que dans notre vie, il y a quantité d'échecs, mais que Dieu ne comptabilise pas en nous les imputant comme fautes. Et de ce fait, quelqu'un qui vit sous la grâce, quelqu'un qui a largement conscience d'être injuste devant Dieu, mais d'être pardonné, alors il aura largement conscience qu'il peut le faire aux autres. Et donc les gens qui souvent ne veulent pas pardonner, ce sont des gens qui ne se pardonnent pas facilement à eux-mêmes.
Oui.
Et de ce fait, qui ne connaissent pas très bien Dieu comme le vrai Père qui pardonne.
Oui, mais là quand même, disons, Joseph avait certainement fait cette démarche, mais pour tous ses frères, petit à petit, il les amène quand même à l'aveu, à la demande de pardon. Il s'incline même devant Joseph. Et puis le pardon va être évidemment accordé. Et c'est suivi de la réconciliation. Toute la famille, avec le père, évidemment, se retrouve. Et ça débouche quand même sur le bonheur et sur de la joie.
Ce qui devrait peut-être aussi nous encourager dans l'exemple de Joseph, c'est que parce que ses frères l'ont vendu, Joseph est devenu Premier ministre.
C'est vrai, c'était positif.
Et donc, on peut se demander aussi, à la question à laquelle nous ne pouvons pas répondre, pourquoi Dieu permet-il qu'on me fasse tort? Peut-être que Dieu permet qu'on me fasse tort pour que j'ai plus après. Parce que non seulement j'aurai appris quelque chose, mais aussi ça aura permis de me développer, de me fortifier et de participer à quelque chose qui aura plus de valeur. Donc il faut vraiment que cet exemple de Joseph nous encourage non seulement à pardonner, mais à comprendre ce que peut être le pardon dans sa globalité.
Oui, et puis en fait, Joseph est profité des bienfaits qu'il a reçus, disons, à ses frères.
C'est ça.
Ça leur revient quand même. Alors on peut se quitter après avoir si longuement parlé sur le pardon, mais c'était relativement important, on peut dire, laissez-vous réconcilier avec Dieu.
Amen.